L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
J'ai envie de vous parler du rêve de Dieu. Vous savez, Dieu a un rêve pour chacun de nous. Et en débutant, j'ai envie de faire une chose. Je vais vous demander, là, je vais vous raconter une histoire. Je vais faire comme je faisais avec mes enfants. Je m'assisais sur le bord du lit et je racontais une belle histoire. Fait que là, vous allez agrandir vos oreilles jusqu'ici et puis vous allez écouter. Il était une fois Dieu qui avait un rêve pour l'homme. Et la femme, bien sûr, mais l'homme avec un grand H. Ce rêve était de rentrer en communication perpétuelle avec sa création. Mais tout à coup, arriva de nulle part le serpent surnommé Satan. Mais vous savez, le serpent, c'est pas grand-chose, hein? C'est rien qu'une grande queue qu'une grosse bouche au bout. C'est ça, un serpent. Hein? Fait que Satan, là, c'est rien qu'une grande bouche. Hein? Mais il arriva dans le jardin d'Éden et se mit à parler à Ève et Adam. Blablabla. Alors, après avoir discuté avec Ève et Adam, il les convainc de se détourner de Dieu. Alors, le rêve de Dieu, qui était de rentrer en communion avec ses enfants, a été brisé à ce moment-là, à cause d'une grande bouche qui s'appelle Satan. Mais vous savez, pour rétablir cette communion-là, Dieu a dû faire un sacrifice. Il a dû envoyer son Fils Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui, on soit au crochet de ce sacrifice et qu'aujourd'hui, nous pouvons bénéficier encore une fois de la communion que nous avons avec Dieu. Mais Dieu veut une communion avec nous pour notre plus grand bonheur, pour des projets de paix, de joie et non de malheur. Dieu veut une communion avec nous pour nous montrer le chemin afin d'accomplir son rêve dans notre vie, dans lequel on va être le plus épanoui. Vous comprenez? On peut être épanoui à un seul endroit, c'est dans le rêve de Dieu. On peut avoir du plaisir ailleurs, mais le plein épanouissement, prendre toute sa force, prendre tout son envol et se réaliser. Vous savez, quand une épreuve arrive et tu es dans la joie, c'est parce que tu es dans le rêve de Dieu. Quand tu es dans ta chair, une épreuve arrive, ça va mal et là, tu cries à Dieu. C'est bien différent. Mais ça, on va le voir. Fait que pendant que je vais vous parler du rêve de Dieu, on va voir plusieurs points. OK? On va juste prendre un petit temps de prière ensemble. On va fermer les yeux. On va lever les mains vers le Père éternel. Et on va déclarer ensemble que ce matin, il y a des destinées qui vont changer. Là, vous allez dire, là, il n'y a pas des destinées, mais vous allez dire, ma destinée va changer. Ce matin, il y a mon rêve qui va être ravivé devant l'Éternel. Ce matin, il y a mon cœur qui va s'embraser pour mon Dieu d'amour, pour celui qui a des plans de paix, de joie et de bonheur pour ma vie. Merci, Père éternel. On se remet à toi ce matin. On se remet en tes mains. Alors que ta parole va être prêchée, Seigneur, on la reçoit. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans cette place. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les cœurs qui s'attendrissent, les esprits qui sont connectés au tien ce matin, Seigneur. Père éternel, on te remet cette réunion en tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que l'Esprit conçoit? L'Esprit peut l'accomplir. OK? Vous allez voir, là, je vous donne des choses. Tantôt, ça va tout prendre sa place. On va ramener ça. C'est comme un entonnoir. On part, on va rapetisser tout ça. Puis à la fin, ça va être extrêmement clair. C'est mon objectif. Mon objectif ce matin, c'était que vous rentiez dans vos rêves. Puis si vous aviez des rêves oubliés, que vous les raviviez, que vous les rameniez. Vous allez voir, pendant que l'Esprit est en train d'agir ce matin, déjà, je suis sûr que vous pensez aux rêves de Dieu sur votre vie. Je suis convaincu parce que tout le temps que je me suis préparé, je pensais au rêve de Dieu sur ma vie. Je vais vous en parler un peu, mais je vais vous amener à saisir le vôtre. C'est ça qui est le plus important ici ce matin et je vais prêcher jusqu'à temps que ce soit fait. Fait que quand vous êtes prêts, quand vous l'avez trouvé, vous levez la main, puis tant que tout le monde soit prêt, on va continuer. Tu sais, c'est comme ça. L'acclimatité fonctionne, ça va bien. OK, on va regarder dans la Bible deux choses, ben plusieurs choses. On va regarder le rêve et la rêverie, la différence entre les deux. Comment faire la différence entre le rêve et la rêverie? C'est bien important. Discerner les deux. Comment découvrir le rêve de Dieu pour nous? Quoi faire pour que le rêve de Dieu s'accomplisse? Comment faire pour devenir un culturiste spirituel? Comment bâtir l'estime de soi? Il va y avoir encore une fois la portion trucs et astuces. Et puis, On va apprendre à contrôler nos pensées, qui est très, très important, et un cœur de serviteur et un cœur de service. Vous allez voir, c'est deux choses bien différentes. Et Dieu, il en cherche un des deux. Et puis, je vais vous faire un résumé de tout ça après ça. Puis ça va être tellement clair que je n'aurai pas de questions. Ça va être fantastique. Alors, le rêve et la rêverie. OK, il y a une différence entre le rêve et la rêverie. Le rêve vient du cœur de Dieu et siège dans notre esprit. Et la rêverie vient de nos pensées. Deux choses extrêmement différentes. Le rêve est pris au cœur de Dieu, la rêverie vient de nos pensées. La différence entre le rêve et la rêverie, comment faire pour différencier? C'est simple, c'est le fruit. Et voici, je vais vous énumérer le fruit des deux. J'espère que vous avez des crayons ce matin parce que je vais vous donner beaucoup de matériel. Et puis, c'est ça, fait que vous pourrez l'écrire. Sinon, vous pouvez vous en rappeler par cœur, c'est sûr. Le rêve compte sur la discipline. La rêverie compte sur la chance. Deux choses différentes. Le rêve se concentre sur le voyage et la rêverie, elle, se concentre sur la destination. Le rêve cultive une saine insatisfaction. La rêverie, elle, cultive des attentes malsaines. Le rêve maximise la valeur du travail ardu. La rêverie minimise la valeur du travail ardu. Le rêve débouche sur l'action. La rêverie débouche sur des excuses pour l'inaction. Le rêve génère un dynamisme, une énergie. La rêverie génère de l'inertie. Le rêve engendre le travail d'équipe. La rêverie engendre l'isolement. Le rêve prend l'initiative. La rêverie, elle attend. Le rêve envisage le risque calculé comme nécessaire. La rêverie évite tout risque. Et le rêve vous rend responsable. Et la rêverie rend responsable les autres. Donc, soyons plutôt dans le rêve que Dieu a pour notre vie que dans nos rêveries. Vous comprenez? OK, on avance. Question. Savoir si c'est bien le rêve ou la rêverie. OK, j'ai quelques points qui sont des questions qu'on va se poser. Si on répond oui à ces questions-là, on est dans le rêve. Si on répond non à ces questions-là, on est dans la rêverie. Numéro un. Est-ce que ça l'inspire le travail dur? Est-ce que ça l'inspire de travailler durement? Est-ce que ça motive à prendre des risques calculés? Hein? Parce que la Bible nous dit, il faut calculer avant de prendre un risque, c'est clair. Est-ce que ça nous édifie? Est-ce que l'entourage va en profiter? Est-ce que notre entourage va profiter de ce rêve? Plus cela se réalise, est-ce que plus que ça vous rapproche de votre destinée? Et est-ce que ça vous rapproche de Dieu? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes donc sur la bonne voie. Passez à la case suivante qui est « Comment découvrir le rêve de Dieu pour nous? » Vous savez, le rêve de Dieu, il y a juste un endroit pour le découvrir. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est en s'inondant de la parole de Dieu et en restant dans sa présence. C'est à cet endroit-là que Dieu va vous parler. OK? Vous allez ressentir quelque chose. Quand c'est le rêve de Dieu, vous allez quand même ressentir quelque chose dans votre esprit et aussi dans vos émotions. Parce que même si le rêve paraît extrêmement grand, vous allez sentir que vous êtes capable d'y arriver. Même si le rêve paraît des fois, semble un peu difficile, il y a une joie qui va s'emparer de vous, pareil dans le projet. Vous comprenez? Le rêve de Dieu, il vous équipe. Il vous équipe au niveau de l'esprit, il nous équipe au niveau des émotions aussi pour l'atteindre, pour y toucher. Souvent, le rêve ne sera jamais extrêmement loin de nous. Dieu nous a créés avec des aptitudes. Quelquefois, Dieu intervient pour changer des aptitudes dans notre vie. Je pense à Moïse qui n'était pas bon pour parler en public, mais c'était tout qu'un leader, par exemple. Il y avait déjà beaucoup d'équipements. Dieu a fait le surnaturel. Moïse est allé avec tout ce qu'il y avait de naturel. Même d'ailleurs, au début, il est allé seulement avec le naturel. Il a oublié le surnaturel, puis ça lui a coûté 40 ans. Fait qu'allons-y pas avec le naturel, mais allons-y avec ce que nous, on peut faire et regardons Dieu faire le surnaturel. Si votre rêve, il est petit, là, probablement qu'il n'est pas de Dieu. Un rêve de Dieu, c'est grand. Dieu nous appelle à rêvez grand. Rêvez haut, rêvez grand, comme Pasteur Joël dit, rêvez en couleur, ça ne coûte pas plus cher. Mais le rêve de Dieu, il est en couleur, il est coloré, il est en 3D. C'est vraiment un rêve puissant qui va t'amener à t'épanouir dans cet accomplissement-là. Peu importe les épreuves qu'on va avoir, quand on est dans le rêve de Dieu, on s'épanouit. Il y a une joie à foncer, il y a une joie à avancer dans ce rêve-là. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans son rêve. Ce matin, vous vous dites, « Ah, moi, j'ai passé à côté du rêve. » Puis là, c'est un peu, il n'est pas trop tard. Abraham était très avancé en âge. Et le rêve de Dieu s'est accompli. Dieu est un Dieu qui rachète le temps. Vous allez voir tantôt à travers une portion de témoignage, Dieu est un Dieu qui rachète le temps. Dieu ne nous veut pas stagnant, il nous veut en action. Et il va racheter le temps, il va faire ce qu'il faut pour un cœur sincère qui veut rentrer dans le rêve de Dieu pour sa vie. C'est évident. Dieu a déposé des talents en nous, c'est à nous de les multiplier. Dieu nous a mis des talents, on a chacun une portion de talent, c'est à nous de les faire multiplier. J'ai tellement croisé de musiciens là, dans ma vie là, qui avaient un talent immense, mais qui sont allés nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé leur talent. Moi, mon fils, il est-tu ici? Non. Mon fils, c'est un jeune homme qui a beaucoup de talent, il tient ça de sa mère. Puis, non, c'est un jeune homme qui a beaucoup de talent. Il n'a pas vraiment besoin d'étudier beaucoup à l'école. Il a une force de concentration incroyable. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Mais ce qu'on entreprend, moi et mon épouse avec lui présentement, c'est de lui apprendre à travailler. Félicitations, bravo, tu as des bonnes notes. Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Parce que je sais que là, tu es à ton standard. La note est bonne comparativement, mais tu es à ton standard. Tu n'as pas travaillé. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si on ne travaille pas, si on ne s'inculque pas une routine, une façon de faire, on va le voir plus loin, c'est tout à fait biblique, une façon de faire, bien le temps passe, il y a toujours d'autres choses qui nous appellent, qui nous inspirent davantage et on s'en va ailleurs et on oublie le rêve de Dieu. Et là, le temps se rapproche et là, on se sent pressurisé puis là, on abandonne. Mais ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas que Dieu avait pas, son rêve était trop grand pour nous autres. Non, c'est qu'on ne s'est pas mis en chemin puis on n'a pas fait un pas à la fois. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, nous guide un pas à la fois. Il n'a pas dit c'est un phare qui éclaire à l'autre bout du monde puis qui nous montre déjà la destination. Je vous disais tantôt, le rêve, c'est dans le voyage qui s'installe. C'est dans le voyage. La rêverie, on veut déjà être là-bas. Je veux déjà conquérir le monde. Mais pendant qu'il se passe de quoi ici, on ne le voit pas. On regarde ça ensemble, OK? L'ennemi va travailler avec sa grande bouche. Il va vous jaser ça pour faire trois choses. OK? Trois choses. Avorter votre rêve. S'il ne réussit pas à l'avorter, il va essayer de le détourner. S'il ne réussit pas à le détourner, il va essayer de vous faire croire que ce n'est pas nécessaire, que c'est inutile, tu es moins que rien. On n'a pas, t'as pas besoin de ça dans ta vie. Le monde n'a pas besoin de ton rêve pour avancer. Et puis, c'est les trois choses dans lesquelles il va nous attaquer. Satan, c'est un terroriste du rêve. Il va essayer de le faire sauter, de le faire exploser. Mais la seule arme qu'il a, c'est encore une fois sa grande bouche, puis la nôtre. Parce qu'à partir du moment qu'on croit sa grande bouche et qu'on commence à confesser ce qu'il nous radote dans l'oreille, excusez pour l'Internet en français, ce qu'il nous raconte dans l'oreille, c'est le genre de truc, on commence à le confesser avec notre bouche, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on fait nous-mêmes. Il n'a même pas besoin de lui. Lui, ce qu'il a besoin de faire, c'est nous jaser ça ici. Mais on va voir comment faire tantôt pour le mettre à l'extérieur de ça. Mais il ne faut pas écouter. Fait que lui, c'est un terroriste, il veut faire exploser votre rêve. Sa seule arme, c'est sa grande bouche. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais une passion, j'aimais la musique. Ma mère m'avait inscrit à des cours de piano. J'étais pas aussi bon que Léa et Raphaël, là, mais j'étais quand même pas pire. Et puis mon professeur m'avait dit, écoute, on va t'envoyer dans un concert. Et puis là, ben, je suis allé voir ma mère, j'ai dit, parce que l'ennemi est venu me parler, il dit, ben voyons donc, un concert, il y a plein de monde, si tu te trompes, tu vas voir le fou. Ben voyons, t'es un gars gêné. Je ne suis pas un gars gêné, désolé. T'es un gars gêné. Là, je suis allé voir maman, j'avais cru les paroles et j'ai commencé à confesser de ma bouche qui m'avait dit, écoute, maman, puis non, j'ai fait pire que ça, j'ai compté un mensonge, j'ai dit, maman, j'aime pas ça le piano. C'était pas vrai. Quand ma grand-mère jouait du piano en bas, j'étais à côté d'elle, c'était des pégales. Mais pour pouvoir me sortir et ne pas dire que j'étais gêné, ce qui n'était pas vrai dans le fond, de toute façon, j'ai dit ça. Donc, maman m'a retiré du cours de piano. Satan pensait m'avoir à ce moment-là. Ensuite de ça, un petit peu plus tard, j'ai commencé à l'école, on a tous des cours de chant. J'avais une dizaine d'années, je me mets à chanter, tac, tout allait bien pendant ces années-là. Tout d'un coup, le professeur me regarde et il dit, arrête de chanter devant toute la classe. Fais du lip-sync, tu chantes trop mal. Mais un enfant de 10 ans, je ne sais pas si vous le savez, là, mais une masse dans le front, ça ressemble pas mal à ça. Puis quand que moi, mon cœur, écoutez, je me couchais le soir, là, on avait des records. Vous savez, c'est quoi des records, là? C'est des CD allongés. C'est des records. On mettait ça sur une pine de métal, on faisait tourner ça, puis là, il tombait tout, en arrière de l'autre. Je m'endormais je ne faisais qu'écouter de la musique dans ma vie. Elvis, puis toute la gang. Je n'étais pas dans un milieu nécessairement chrétien. J'étais dans un milieu avec des parents vraiment fantastiques, par exemple. Gloire à mes parents. C'est ça. Fait que, écoutez, j'écoutais des disques, j'écoutais des CD, j'étais toujours dans la musique. J'avais une passion, c'était ça. J'avais deux passions. J'allais chez ma tante, elle avait un chien, il s'appelait Rex. Fait que quand son chien était couché à terre, j'étais couché à terre à côté du chien, je le flattais. Quand le chien se levait, je m'en allais à côté. J'étais devenu le chien de poche du chien, tu sais. Fait que ça, c'était moi. Et l'autre, mon autre passion, c'est mon cousin qui était multi-instrumentiste, qui jouait de la flûte, du piano. Quand il jouait de la musique, s'il jouait 2 heures, je lâchais le chien, je l'amassais à côté du piano pendant 2 heures. Fait que quand ma mère me cherchait, elle avait 2 choses. Si elle entendait le piano, elle allait voir en bas, j'étais là. Ou si elle me trouvait pas, elle appelait le chien, j'arrivais en arrière. C'était pas mal ça. J'avais comme 2 passions dans la vie, ces 2 choses-là. Mais la musique a toujours été une passion. Mais là, j'étais freiné. J'étais pas bon, je chantais pas bien, puis j'étais trop gêné. J'avais cru la grande bouche fatigante, elle. Fait que là, j'ai lâché la musique à ce moment-là. Jusqu'à un petit peu plus tard. J'étais dans un endroit, j'étais moi qui étais le barman, et puis il y avait une petite orchestre symphonique qui était là, et puis moi je crois encore qu'aujourd'hui c'est de Dieu ce moment-là, mais l'orchestre symphonique était là, il était une gang, il y avait un maestro, puis maestro, le chanteur qui chantait les chants, il faussait comme une boîte de conserve qui traîne sur l'asphalte, là, ou... En tout cas, c'était pas bon, ce soir-là. Puis, malheureusement, normalement, il devait être bon parce qu'il était avec un orchestre symphonique et il faisait des tournées. Fait que là, le gars, pour faire une blague, il a dit, « Ah, on va prendre le barman, on va lui faire chanter une chanson. » Fait que le barman, en l'occurrence, c'était moi. Fait que je me suis avancé et je me suis mis à chanter la chanson. Et là, c'était quand même pas si pire parce que c'est moi qui ai fait le reste de la soirée avec le band. Fait que là, ça m'a redonné une sorte de confiance. Je dis, « Voyons, je suis pas si pire que ça. » Donc, il avait pas pu avorter le rêve qui avait essayé d'avorter de Dieu dans ma vie. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Il a essayé de le détourner. Là, j'ai vu que j'avais un certain talent. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Mais moi, j'étais un gars un peu passionné, là, ceux qui me connaissent. Fait que j'apprends à jouer de la guitare. Mais à 1 an, j'étais rendu à un niveau où ce que les gens me payaient pour jouer. Je me faisais saigner les doigts à chaque jour. Je jouais de façon... Aussi, j'avais 30 secondes, j'étais sur ma guitare. Et donc, 1 an après... J'étais rendu que je faisais des covers dans les bars, je chantais partout. J'avais commencé à giguer partout, puis c'est ça. Fait que je roulais dans ce milieu-là. Fait que là, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, on peut pas le tuer, on va le détourner. En essayant de me faire croire que ce milieu-là me rendrait heureux. Mais j'ai encore des connaissances qui étaient dans ce milieu-là, qui sont encore là aujourd'hui, et qui n'ont jamais été nulle part. C'est un tue-monde. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire. Il a dit, on va le détourner, et on va le tuer. Gloire à Dieu! Seigneur est venu dans ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai une épouse merveilleuse qui a prié pour moi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons. Même si la petite voix disait, hey, écoute, garde-la aller, là. Pas du monde, ce gars-là. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Et c'est ce que je déclare et ce que je vais continuer à déclarer. D'ailleurs, je l'ai écrit dans ma Bible. J'ai écrit mon rêve, moi, dans ma Bible, puis il y a une ligne, c'est « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Parce qu'à ce moment-là, ma femme a prié pour moi, j'ai viré de cap, le Saint-Esprit nous convainc de péché, j'ai eu je pourrais vous compter ma conversion, c'est un moment vraiment fabuleux dans ma vie, tout a viré. Bon, je ne vous cacherai pas que le milieu des bars amène consommation d'alcool, cette journée-là complètement finie, je ne sais pas, je m'en ai aperçu une semaine plus tard. C'est un cadeau de Dieu. Je suis rentré dans le royaume, là, ménage. Là, à partir de ce moment-là, après ça, mon esprit était transformé et je ne pouvais plus écouter ce que je chantais avant. La plupart, là, 90%. Fait que radical, comme je suis, j'ai pogné CD, flonk, dans la poubelle, j'ai pogné la guitare, flonk, oublie ça. Parce qu'un pasteur qui m'avait dit, Jean, il dit, un jour, tu vas chanter pour le Seigneur, j'ai dit, oublie ça. J'ai maintenant entendu, ta musique est trop plate. Mais ça, c'était avant d'être converti. Après être converti, l'autre miracle, c'est tous ces mots-là. Tout ça, c'est devenu une essence, c'est devenu du gaz dans ma vie. Louer et adorer Dieu, je peux louer et adorer Dieu sur deux mots, ça n'a même plus d'importance. Les mots n'ont plus d'importance. C'est le cœur qui est important. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu une transformation à ce niveau-là. J'ai accroché la guitare. Et puis après ça, j'avais pris une guitare, j'étais dans une église, puis je jouais un peu ding, 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 les trois accords que je connaissais. Et puis là, le monsieur, il dit, toi, il dit, je joue de la guitare. J'ai dit, oui, il dit, pourquoi tu n'en joues pas à l'église? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je sais pas, je veux dire, je sais ce que je faisais avant, là, ça ne me tente plus d'en faire de cette façon-là. T'sais. Mais il dit, si Dieu t'a donné un talent, c'est pas pour que tu le mettes sur la tablette. Encore une fois, Satan, il est venu prendre ce que j'avais. Je te dis, il a vraiment une grande bouche. Puis, il est venu me dire que si je continuais à faire de la musique, je pourrais pas servir Dieu. Que la musique était pas bonne. C'est pas la musique qui est pas bonne, c'est le cœur qui en fait qui était pas bon avant. Vous comprenez? Fait que je suis revenu, et puis là, ça a avancé dans ma vie. Et puis, ma femme, à un moment donné, m'a demandé, Jean, t'as-tu un rêve? J'ai dit, écoute, moi, j'ai un rêve de travailler dans le ministère à temps plein et de faire de la musique. J'ai dit, à 40 ans. Puis quand j'ai déclaré 40 ans, je l'ai déclaré avec une foi que le Seigneur m'a rappelé après. J'ai dit, à 40 ans, je vais servir le Seigneur. Puis je vais faire de la musique. À 40 ans, j'étais pasteur en train de servir le Seigneur sur l'estrade ici. Et Dieu me l'a rappelé en mémoire. Tu sais, tu m'avais dit à 40 ans. Puis j'avais dit une autre chose au Seigneur quand j'ai accroché ma guitare. J'ai dit, Seigneur, si un jour tu veux jouer de la musique pour toi, là, ben tu m'en donnerais une guitare. Celle-là, je l'avais accrochée. Tu sais. Et puis, la semaine d'après, j'étais dans les coulisses en arrière, il y a une femme que je remercie encore aujourd'hui énormément d'avoir écouté la voix de Dieu. Elle est arrivée en arrière et elle dit, Jean, je vais te donner une guitare. Vous comprendrez une chose que moi, ça là, j'avais même plus d'émotion. J'étais comme, merci. Là, je suis parti sur le stage. C'est vraiment Dieu qui était venu mettre un saut. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais redouté du rêve de Dieu. Redouté, pas dans le sens d'avoir peur, mais... J'avais déjà douté, donc je ne redoutais plus le rêve de Dieu sur ma vie. Ça avait mis un saut. Dieu m'avait parlé. Ça s'est passé comme ça dans ma vie à moi. Ça peut se passer différemment. Quand Dieu nous parle, on le sait. C'est une conviction profonde. Fait que le rêve de Dieu va venir s'installer en vous avec une conviction profonde. Après ça, j'ai eu des prophéties. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là? Je les mets devant mes yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que les prophéties que j'ai eues sur ma vie, au niveau de l'appel de Dieu sur ma vie, je les ai mis sur mon laptop, sur mon bureau. Puis, une fois de temps en temps, je les regarde. Je devrais les regarder tous les jours, parce que c'est ce que la Bible dit dans Habacuc 2.2. Comment faire pour que le rêve s'accomplisse? Ben, écris la vision. Habacuc 2.2 nous dit « Écris la vision ». Dans Habacuc 2, c'est dit « Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit « Écris la vision et exprime lisiblement sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. » S'il y a un verset que vous avez à retenir là, aujourd'hui, c'est celui-là. « Écris la vision. » Il y a une action. Il y aura toujours une action avant que les choses s'accomplissent avec le Seigneur. Écris la vision. Puis j'aime dans Darby la traduction parce que je les mets tout le temps ensemble. Je trouve ça le fun. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Cette vision-là va nous amener à courir, à aller de l'avant. Écris la vision, regarde-la fréquemment. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas courir vers la vision. Puis il y a beaucoup de choses qui sont des bonnes choses que tu vas mettre de côté parce que Dieu a un rêve pour toi. Et mon rêve aujourd'hui pour l'Assemblée, je t'ai supposé le dire plus tard dans mes notes, mais c'est que tout le monde trouve son rêve et qu'on court tous ensemble. Et on va courir en parallèle. Et puis là, ça va être une armée qui avance en courant. On ne courra pas en s'asseyant de s'embarquer un sur l'autre parce qu'on a notre vision et notre rêve pour nous-mêmes. C'est super important parce que sans ça, qu'est-ce qui se passe? On se met à convoiter la vision et le rêve d'un autre. Parce qu'on a besoin. Parce qu'un peuple sans vision meurt. On a besoin d'avoir une vision pour notre vie. Sinon, on se met à convoiter la vision de l'autre. On se met à désirer ce que l'autre a. On se met à s'imaginer qu'on pourrait être comme l'autre. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous a créés uniques et c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut une vision unique et simple. Fait que j'écris moi ma vision dans ma Bible. Je ne compterai pas la vision que j'ai écrite parce que c'est intime et c'est très grand. Puis... Dieu est vraiment fantastique parce que c'est dans la prière que je l'ai écrit, la vision en passant. C'est pas, moi j'aimerais ça. J'ai cherché la face de Dieu, je me suis assis, j'ai rentré dans la présence de Dieu, et j'ai écrit la vision. Et aujourd'hui, je la relis, comme je vous disais. Moi, quand je prêche, je m'édifie, fait qu'il faudrait que je prêche plus souvent. Mais ce que je vous dis, c'est que je la lis fréquemment, mais il faudrait que je la lise à tous les jours. Tous les jours. Je vais vous montrer les témoignages de gens qui ont réussi dans la vie, puis vous allez voir ce qu'ils font à tous les jours. C'est assez impressionnant. Il faut devenir ensemble des culturistes de la foi. Qu'est-ce qui se passe avec des culturistes? Je ne sais pas s'il y en a qui font des poids et haltères ici. Bon, il y a Annabelle, elle va venir nous montrer ses muscles, ou ceux de son mari. Mais les culturistes, qu'est-ce qu'ils font là? C'est qu'ils lèvent des poids, là, puis à un moment donné, ils viennent les pipes grosses de même, là. Puis là, ils ont l'impression qu'ils peuvent concourir le monde. Là. Puis là, tu lui demandes, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les jambes? Les jambes. L'important, c'est le chest. Oui, bras, chest, bras. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est important de devenir un culturiste spirituel. Il faut s'entraîner, mais il faut s'entraîner à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier les jambes. Il ne faut pas oublier le cardio. On ne va rien oublier à ce niveau-là. Devenons des culturistes spirituels. Puis comment faire pour le faire? Il sait qu'il faut lever les poids de la parole de Dieu. Il faut croire et s'accaparer ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, il y a beaucoup de « D » dans ça. La parole de Dieu dit de nous. Et ce qu'elle dit de nous, elle nous dit que celui qui est en vous, qui est en moi, qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Paf, on vient de faire les bras. Vous êtes des créatures merveilleuses. Pouf, les jambes. Ce que Dieu dit, vous êtes des héros. Le dos. On est créé à son image. Pouf, les joues. Vous avez jamais remarqué? Les culturistes, ils ont toutes les joues musclées. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas quel exercice qu'ils font. En tout cas, anyway. Quand je serai parti, vous ferez de plus grandes choses que moi. Hey! Pouf. Non, mais vous êtes la tête et non la queue. Hello? Et vous resterez humble. Non, mais tu sais, je veux dire, quand t'es craint qu'il y a de même, là, je veux dire, tu fais l'école biblique, puis là, ils t'apprennent à rester humble. D'où l'importance de s'inscrire. Fait qu'il faut devenir des culturistes de la foi. OK, on est allé au gym ensemble. Maintenant, comment bâtir ça? Il va falloir bâtir l'estime de soi. Oh, ça, c'est une clé. OK, c'est une clé. L'estime de soi, ça a l'air nono, ce que je vous dis là, mais c'est une porte pour la voie de l'ennemi. L'estime de soi est très importante. L'estime de soi n'est pas dans le projet, n'est pas dans notre famille, n'est pas dans nos enfants, n'est pas dans notre femme. Elle est dans Dieu. Je vous ai énuméré ce que Dieu pense de nous, de ce qu'on est. Alors, il faut se l'accaparer pour qu'on ait une estime de soi. Parce que les gagnants sont ceux qui ont une bonne estime de soi. Parce que quand il va arriver un échec dans notre travail, c'est pas nous qui sommes un échec. Le gagnant va dire, j'ai fait une erreur. C'est bien différent, ça. Parce que j'ai travaillé aussi avec beaucoup de musiciens, des gens sensibles. Et là, si, mettons, tu as le malheur de lui dire, écoute, mettons, je prends Pat, là. Un gars très sensible. Mais c'est ça, c'est pas l'air quand il bûche chez tambour, mais c'est un gars sensible. Je prends Pat, je dis, écoute, Patrick, dans cette pièce-là, ce que tu viens de jouer, c'est pas ça que ça prend. Est-ce que Patrick fait, oh, tu me rejettes? Non! Patrick est capable de faire autre chose. À ce moment-là, pour cette pièce-là, c'est pas ça que ça prend. Donc, devenons « grow up », comme on dit, devenons matures et apprenons à faire les choses en équipe. Parce qu'on a vu tantôt, le rêve va amener à travailler en équipe. Donc, si pour ce moment-là, ne soyez pas atteint, ça prend une bonne estime de soi. Et comment qu'on fait pour bâtir l'estime de soi? On va faire la première chose. Vous allez identifier dans votre vie 5 dons que vous avez. Important. OK? Vous allez identifier ça. Et puis, suite à ça, si jamais vous avez de la misère à l'identifier, moi, je demande à mon épouse, là, j'ai l'heure juste. Ça, tu l'as. Non, ça, t'es dans ton... T'es dans la rêverie, le grand, là. Non. Ça, c'est assez clair, tu sais. L'autre chose que je fais, c'est que je prends, mettons, un autre bon outil, c'est que, mettons, que quand on fait de la louange, chez choses, on fait de la musique, je prends le DVD après. Là, des fois, ça a bien été, je regarde le DVD. Là, je suis redevenu humble. Tu retombes très humble. C'est parfait, parce que ça m'amène quoi? Une sainte insatisfaction qui m'amène à faire quoi? À me dépasser. Il ne faut pas avoir peur de se mettre la vérité d'en face. Je le répète, n'ayez pas peur de se mettre la vérité d'en face. Ça graffigne, mais ça nous fait avancer. Puis le but de Dieu, c'est qu'on avance. C'est qu'on avance. OK. Identifiez 5 choses que vous appréciez en vous. OK. Et gardez en mémoire toujours un triomphe que vous avez eu avec Dieu. C'est important. Parce que des fois, quand ça brasse dans le bateau, c'est bon de se rappeler d'où ce qu'on vient, de se rappeler que notre Seigneur, il est sur notre vie, puis qu'on a réussi à cet endroit-là, puis que justement, l'échec, c'est pas nous, c'est la situation. Peut-être que je l'ai mal géré, peut-être que j'ai mal agi. Oui, mais moi, je suis pas un échec. Moi, je suis un gagnant. Dieu dit que je suis en la tête et non la queue. OK? Et dans le rêve de Dieu, c'est ce qui va arriver. Donc, pendant le parcours, il va y avoir des voleurs de rêves. Vous allez en rencontrer. Donc, l'importance d'avoir une bonne estime de soi, parce que il va y avoir des frictions, il va y avoir des voleurs de rêves. Ces voleurs de rêves-là, qui c'est qui sont? Qui sont-ils, ces voleurs de rêves? Ce sont des gens qui sont jaloux ou des gens qui n'en ont pas de rêve. Vous comprenez? Fait que de te voir rentrer dans le rêve de Dieu, ça vient graffiner quelque chose. On a le droit de dire « ouch », là. Mais c'est sûr que c'est pas. Nous autres, on ne fait pas ça. OK? Mais il ne faut pas le faire. Parce que dans le monde, monter l'échelle dans le monde, là, ça veut souvent dire monter sur le monde dans l'échelle. Mais dans le milieu chrétien, ce que ça devrait être, monter l'échelle, ça devrait être monter l'échelle puis monter les gens avec nous autres. C'est important. Genèse 37, 19 à 20. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici, ce maître songeur vient. Ce maître rêveur, pour remplacer le mot songeur par rêveur. Mais maintenant donc, venez et tuons-le. Et jetons-le dans une de ses fosses et nous dirons qu'une mauvaise bête l'a dévoré. Et nous verrons que deviendront ses rêves, ses songes. J'avoue que Joseph, quand il a présenté son songe et son rêve au reste de ses frères, il n'y avait peut-être pas le plus de tact possible. Là. Des fois, même, c'est bon peut-être de garder notre rêve intimement dans notre jardin secret, dans un sens, garder ça, n'en parler seulement qu'aux gens qui sont proches de nous, à qui qu'on sait, que c'est pas mauvais, ça, de l'écrire dans sa Bible. De toute façon, c'est entre nous et Dieu. Puis, mais il faut faire attention comment on parle de nos rêves aux autres, parce que ça pourrait créer ça. Puis l'ennemi va venir dire, « Ben, toi, t'en as pas de rêve. Regarde, il y en a un rêve. Oh, attends un petit peu. Il va passer en avant de toi. Il va prendre ta place, blablabla, blablabla. » Il y en a du stock à vous dire, c'est clair. Mais, il faut repousser ça. OK? Il faut repousser ça. Il faut chercher, premièrement et avant tout, le rêve de Dieu pour nos vies. Puis c'est sûr que quand on voit un problème dans les gens et qu'on le pointe avec le doigt, n'oubliez pas qu'il y a quatre autres doigts qui pointent vers nous autres. Fait que si nous, on est capable de changer nous-mêmes, les choses autour de nous vont changer. Fait que concentrons-nous sur notre rêve et le rêve de Dieu dans notre vie. OK? Joseph a rencontré ça. Je regarde, en tout cas, j'ai d'autres témoignages, mais le temps file. On ne veut pas être un clone, hein, en passant. On ne veut pas être le clone, puis on ne veut pas être pareil comme un autre, puis on ne veut pas devenir le clone d'un autre. On veut être ce que Dieu a pour nous. C'est là qu'on va être heureux. C'est là qu'on va être bien. Donc, il faut bâtir l'estime de soi avec la parole. C'est très, 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 très important. Dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très important. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, on s'en va au gym spirituel de la parole de Dieu et on s'accapare ce que Dieu dit de nous. Et là, on va être capable de rentrer dans notre rêve efficacement. Parce que vous savez, est-ce qu'on a déjà pris l'avion? Tu sais, quand on prend l'avion, là, on décolle. Puis là, tout d'un coup, plus qu'on monte, plus que les maisons deviennent petites, les piscines deviennent petites, les routes deviennent petites, les gens deviennent petits, là, tout d'un coup, on ne les voit plus. Puis quand on arrive et qu'on atterrit, là, tout d'un coup, les maisons deviennent plus grosses, les piscines deviennent plus grosses, la piste d'atterrissage, l'aéroport, les gens aussi. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Plus qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, plus que notre Jésus, notre Dieu devient petit, 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 petit. Et plus qu'on se rapproche de Dieu, plus qu'il devient grand. Puis plus qu'il prend sa pleine dimension. Et plus que là, c'est le Dieu qui est sur notre vie. Et c'est le Dieu qui est plus que capable. Mais ça, vous allez le trouver d'une seule et unique façon. C'est en rentrant dans la parole de Dieu et en vous imbibant complètement de la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas cette image-là de l'avion. Plus qu'on s'éloigne de la parole, plus que notre Dieu devient petit, mais plus qu'on se rapproche de la parole de Dieu, plus qu'on s'imbibe la parole de Dieu, plus que notre Dieu devient grand, il devient celui qui règne, finalement. On a vu qu'il ne fallait pas baser notre estime de soi sur nos projets. Il n'est pas nécessaire, d'être grand avant de commencer, mais il faut commencer avant de devenir grand. OK? Fait qu'on a un chemin à faire. Et tout ça part avec une action. Un premier pas dans la direction du rêve de Dieu. C'est sûr que tout ça, le début de tout ça, ça nous prend le rêve de Dieu pour notre vie. Mais après ça, ça va venir avec l'action. Et Dieu va toujours regarder au cœur des personnes. OK? Dieu a toujours utilisé des gens qui ont un cœur de serviteur. Parce qu'il y a un cœur de serviteur, puis il y a un cœur pour le service. Deux choses bien différentes. Le cœur pour le service, quelqu'un va lui demander, « Hey, tu ferais-tu ça? » Ben oui. Le cœur du serviteur va toujours chercher à servir. Il va, hop, il y a telle chose. Ah, il y a un papier à terre, je vais le ramasser. Ah, ça, c'est un cœur de serviteur. Ah, dans ce domaine-là, il y a une place pour aider. Ça ne veut pas dire quand on a un cœur de serviteur, parce que Jésus-Christ avait un cœur de serviteur. Il a servi Dieu tout le long de son chemin. Paul avait un cœur de serviteur. Les apôtres avaient des cœurs de serviteurs. Peu importe, il y avait des rôles à jouer, il y avait un rêve à accomplir, ils ont tassé des choses pour rentrer dans le rêve, mais tout au long, il y avait un cœur de serviteur, présenter Dieu aux gens. Tout au long, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et Dieu regarde toujours à un cœur de serviteur. Écoute, j'ai un exemple d'une femme, j'ai rencontré un bassiste cette semaine, son épouse, elle a un doctorat, deux maîtrises, et est en train de finir un autre doctorat. Tu sais, une personne surdiplômée, là. Mais cette femme-là, dans son église, savez-vous ce qu'elle fait? Elle fait une jambe tellement dans l'ombre. Elle s'occupe d'handicapés qui ne diront jamais merci. Et elle fait ça semaine après semaine. Une personne là qui a un bac, deux maîtrises, puis est en train de faire un bac, pensez-vous qu'elle a beaucoup de temps avec une famille puis un travail dans le milieu biologique? Elle sert à son église. Elle a un cœur de serviteur. Elle a vu un besoin, elle est allée là. Et elle ne travaille pas là-dedans pour la paye. C'est ce que son mari me disait. Elle travaille parce qu'elle a le désir profond de changer quelque chose. Mais ici-bas, ça vient qu'un salaire. Puis ils sont bien bénis, je pense. C'est vraiment génial. Mais c'est ça. Donc, on va regarder un cœur de serviteur. Puis savez-vous, même dans le monde séculier, les gens regardent un cœur de serviteur. Moi, je me rappelle... il fut un temps, je travaillais dans la restauration, et puis j'ai un ami qui m'avait appelé dans une grosse boîte pour aller donner un coup de main. Il était dans les banquets, puis il était complètement débordé. Alors, je suis allé donner un coup de main, puis ça, j'ai fait ça gratuitement. J'avais pas d'intérêt à. C'était mon ami, il était mal pris, fait que je suis allé faire de la gestion de banquet. Et puis, pendant que j'étais là, ce que je ne savais pas, c'est que le directeur général de cette grosse bâtisse-là était là et m'a vu travailler au service. Il a parlé à l'autre. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? La semaine d'après, je crois que ça a été Dieu pour une passe dans ma vie qui a vraiment béni cet endroit-là. Il m'a appelé dans son bureau. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais je veux que tu travailles pour moi. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire ici, mais je veux vraiment t'engager. Fait qu'on a parlé salaire. Puis là, il m'a donné une portion de travail. On a parlé salaire, j'ai accepté. Puis après ça, moi, j'ai négocié des pourcentages. Pas foufou le gars, là. Pas fin, mais pas foufou. Puis après ça, quand j'ai commencé, il m'a dit, tiens, je te donne une carte blanche. Et à chaque année, ce que je faisais, j'écrivais 30 pages, la vision que j'avais pour développer le département dans lequel, au début, je n'avais pas, que j'ai créé. À la fin, je gérais 3 départements. Après 3 ans, on avait triplé le chiffre d'affaires. À chaque année, je donnais mon bilan avec, j'avais tout calculé ce que ça coûterait pour faire telle chose. Et je remettais ça et on y arrivait à chaque année. On a triplé, on est passé à 25 employés. Dans ce département-là, il y avait au-dessus de 100 employés dans l'ensemble du bâtiment. Je me suis créé un job. J'ai développé des départements qui n'existaient même pas parce que je suis devenu excité. J'ai eu la passion. Il m'a offert l'opportunité de réaliser un rêve. Fait que là, j'ai travaillé dans les loisirs. J'ai travaillé au niveau de la musique. Là-bas, on faisait affaire avec des radios. On avait un brunch extérieur. Tout ça a parti parce que le monsieur, il a reconnu un cœur de serviteur dans un sens. Vous comprenez? J'étais pas là pour l'argent, j'étais là pour aider mon ami, finalement. Et puis, ça a déboulé. Fait que pour moi, ça a été une belle opportunité, mais quelque chose qui me prouve que, écris la vision, Habacuc 2.2, et mets-la devant tes yeux. Ça va te faire courir. Et puis j'avais dit au gars, j'avoue que ça a peut-être été un petit peu arrogant quand j'ai dit ça, mais j'ai dit, tu n'auras jamais besoin de me mettre dehors. Il dit, quand que je vais être tanné, je vais m'en aller. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Parce que à mon dernier bilan, j'avais refait, j'avais d'autres projets. Puis là, ben les budgets n'étaient pas là. Fait que j'ai dit, bon, ben je pense que la saison est terminée pour moi. Puis on est passé à une autre étape dans notre vie. Et puis, c'est ça. Fait que Dieu regarde vraiment un cœur de serviteur. Puis c'est devant Dieu qu'on travaille. Toujours. Toujours, 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 c'est devant le Seigneur qu'on travaille. C'est pas devant les hommes. C'est vraiment à lui qu'on a à rendre compte. Puis c'est vraiment lui qui va promouvoir quoi que ce soit dans notre vie. C'est à lui qu'il faut s'en remettre. OK. Hey, ça va bien quand même, hein? Je vais vous faire un petit résumé, OK? Parce que j'ai d'autres choses que je vais faire avec vous. Et puis, on va se faire un petit résumé, OK? Comment faire pour trouver le rêve? OK? Le rêve va naître dans votre esprit. Excusez-moi, j'ai fait ça ici avec l'esprit, mais ça, c'est pas l'esprit, c'est la tête. L'esprit est ici. Il va naître dans votre esprit, puis il va monter dans vos pensées. OK? C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez commencer à l'imaginer, vous allez commencer à le rêver. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir deux choses qui vont se passer. La première chose, peut-être que ça va mourir. Peut-être que le rêve va mourir d'être là. Savez-vous pourquoi que ça va mourir? Parce qu'on va écouter la voix. La voix va nous dire comment, pourquoi, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, c'est bien trop grand pour toi, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, si on accepte ces paroles-là, qu'est-ce qui va se passer? Avortement. C'est merci, bonsoir, le rêve est terminé. Ou le rêve va se réaliser. Mais pour que le rêve se réalise, il va falloir se mettre en action. Ça va être super important. Il faut parler à sa vision. Quand Dieu a donné notre rêve, il faut parler à sa vision. OK? On va confesser la parole de Dieu sur la vision. Seigneur, tu vas ouvrir les portes. Seigneur, les portes sont ouvertes parce que tu m'as appelé. Les finances sont là, Seigneur Jésus. Tu vas fournir pour les musiciens. Tu vas fournir pour la table de son. Tu vas fournir, Seigneur, pour la meilleure place d'enregistrement. Tu vas fournir pour la publicité. C'est ça qui va se passer. Il faut confesser constamment sur notre rêve. Il faut déclarer la parole de Dieu sur notre rêve. C'est important. Ça, c'est une façon de se mettre en marche. Dans Proverbes 18, 21, ça nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Proverbes 18, 21, je déclare les choses sur ma vision, parce que si je déclare la vie sur ma vision, il va y avoir la vie dans ma vision. Vous savez, la pensée positive, il y en a sûrement d'entre vous autres qui disent, ben, la pensée positive, c'est nouvel âge. Ben, moi, je constate que ça a été pris dans la Bible. Puis si vous n'y croyez pas, la pensée positive, je vais faire un deal avec vous. Prenez tout ce qui est négatif dans vos pensées, là, mettez-les de côté puis gardez le reste. Vous allez avoir atteint le but. Hein? Parce qu'il n'y en a pas de zone entre les deux. C'est soit positif, c'est soit négatif. Nous autres, les gars, c'est de même, ça marche. Des fois, on a des petits neutres. Nous autres, les femmes, ça passe tout le temps. Nous autres, on a des neutres. Les ados, c'est un peu pareil, mais les autres, ça fait plus. Ça, c'est de même dans la vie. Hein? Fait que donc, la pensée positive, c'est créé pour nous amener plus loin et c'est biblique. C'est simplement la pensée positive, c'est l'absence de pensée négative. Pensez à ça. Passez à l'action. Dieu va répondre toujours en action dans Luc 5, 17, 20. Luc 5, 17, 20. Une fois qu'on a écrit la vision, on a enlevé les pensées négatives qui ont rapport à la vision parce que la grande bouche va venir vous parler de négativement tout le temps. On a enlevé ça. Maintenant, on va passer à l'action. Voyez ce que les gens ont fait ici. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait, on parle de Jésus bien sûr, et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade, j'aime beaucoup ce mot-là, de Galilée et de Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Il y avait un grand vent de puissance. Comme ce matin, là, il y a un grand vent de révélation. Je vous le révèle, là, il y a un vent de révélation. Préparez-vous parce que je suis convaincu que par le Saint-Esprit, il n'y a personne de vous qui va quitter cette place sans avoir touché au rêve de Dieu pour votre vie. Pour votre vie. OK, on t'est rendu. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé et il cherchait à l'introduire et à le mettre devant lui, Jésus bien sûr. Et ne trouvant pas par quel moyen il pourrait l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles avec son petit lit au milieu devant Jésus. Et voyant leur foi. Hey, la foi, là, c'est pas quelque chose de visible. C'est qu'il y a eu une action qui qui a démontré la foi de ces gens-là. Ils ont arraché le toit. Est-ce qu'ils se sont laissés arrêter parce qu'il y avait le monde était compacté? Non. Ils ont arraché le toit. Il y avait un objectif. Il y avait un but. Avec le rêve de Dieu, c'est pareil. Quand la passion du rêve de Dieu s'installe en dedans de nous autres, on est prêt à arracher le toit pour se rendre à Jésus. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis en action et Jésus leur a dit, tes péchés sont pardonnés, ce jeune homme a été guéri, il est parti avec son brancard. Bye bye la visite. Il est même pas sorti par le toit, il est passé devant tout le monde s'est tassé. Aïe aïe. Quand il a vu la foi de cet homme-là qui était prêt à arracher. Puis pas juste de cet homme-là, hein, de ses chums, qui eux autres, lui, physiquement, il n'avait pas la force de le faire, mais ses chums, eux autres, ils avaient la foi que si on le descend devant Jésus, Jésus va avoir la compassion, puis il va le guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont mis en action. Écris la vision à Habacuc 2.2, n'oubliez pas, on écrit la vision, on la met devant nos yeux, on se la répète, et ça va nous amener à courir. Faire confiance à Dieu. Ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Nous, on fait quoi? On fait le naturel. Dieu, il fait quoi? Surnaturel. On est vraiment une bonne équipe, là. Hein? On a tout pour réussir. On a une bonne équipe. On a notre vision. On l'écrit. On se la met devant les yeux. Pourquoi on se la met devant les yeux? Parce que sinon, ça va faire comme l'avion. Si on ne se la met pas devant les yeux, notre vision là, et la parole de Dieu, là, notre Dieu il va rapetisser de même. Puis là, il va être loin, 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 loin. On se la met devant les yeux, fait que notre Dieu reste grand, il reste puissant, et ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Puis le secret dans tout ça, c'est la routine. Ça a l'air drôle parce que venant d'un musicien, on a l'air des gens qui n'ont pas de routine, mais au contraire, je parlais justement, encore une fois, avec un monsieur qui est un musicien professionnel, et il y a, à chaque jour, on parle d'heures de pratique. Et on s'entend qu'il n'y en a plus de besoin. Mais à chaque jour, il y a sa routine. C'est ce qui l'amène de plus en plus loin. Et nous autres, c'est pareil. Il faut avoir une routine. Si on ne s'installe pas une routine, je suis allé voir, vous savez, là, je suis en processus pour un album. Je suis allé voir la maison d'édition avec qui, pas la maison d'édition, mais la maison de production avec qui je vais produire. Je me suis assis avec les gars. J'ai dit là, écoutez, moi, il faudrait qu'on se rencontre. Parce que j'ai tellement de choses à faire dans ma vie que si vous ne me mettez pas un cadre sur le dos, je n'y arriverai pas. Pas parce que je veux pas, mais parce que quand j'ai un cadre, je sais que pour telle date, il faut que j'accomplisse telle chose. Pour telle date, fait que là, je suis capable de tasser les choses pour rentrer dans le rêve que Dieu a pour moi. Et c'est ce qui va se passer. Puis c'est pour ça que je les ai demandés. J'ai pas entendu qu'ils me reviennent puis qu'ils m'en mettent un. Quand je dis là, ça me prend un cadre aujourd'hui. Fait qu'on s'est déplacé, on est allé rencontrer, on s'est donné un échéancier, puis on a des dates. Puis le reste, là, moi, j'ai fait le pas, là. Je suis rentré dans ma chaîne. Dieu va s'occuper du reste. C'est sa job, lui. Moi, je fais le naturel, lui, il va faire le surnaturel. C'est sa job. Le secret dans la routine, mon prof de musique, il me dit toujours, Jean, t'es mieux de pratiquer 15 minutes par jour que 4 heures le vendredi. 15 minutes par jour, tu évolues, tu changes, tu te transformes, tu t'améliores. 4 heures le vendredi, tu as tout oublié. Tu prends 2h30 te rappeler ce qu'ils t'ont dit la semaine d'avant. Puis après ça, tu rentres dedans, puis tu as travaillé 15 minutes. Finalement, tu travailles 15 minutes en 2 semaines. Fait que, c'est ça. Donc, c'est important. Rentrons dans une routine de travail. Soyons les plus ordonnés et les plus vigilants. Vous savez, là, je vous parle, et encore une fois, je vous dis, je m'édifie en parlant. Là. Je dois rentrer dans une routine si je veux voir le rêve de Dieu s'accomplir. Et j'ai la passion, hein. Je vous le dis, c'est ce que je veux le plus, rentrer dans le rêve de Dieu pour ma vie. Mais des fois, la voix me dit, « Ah, Jean, tu sais, il y a telle affaire, tu pourras faire. » Mais là, ça presse aussi. Puis ça presse. Puis là, je rentre dans la justification. Là. Je m'auto-justifie. Là. Ben, tu avais raison. Ben oui, c'est vrai que j'ai ça à faire. Moi, le faire. Attends un peu. OK, le rêve de Dieu, 2 minutes. Tu vas être là tantôt encore. On revient tantôt. Non, je viens de perdre une autre journée. Puis là, on est en avion d'école. Puis là, le rêve de Dieu fait ça. Soyons réguliers. Si ça inspire à une seule chose aujourd'hui, soyons des gens passionnés et réguliers. Mais le rêve de Dieu va amener ça dans votre vie, va amener cette passion-là. Maintenant, nous autres, c'est à nous de faire, d'être réguliers. Je regarde, quand on est passionné, on a une conviction profonde. Je vous parlais tantôt que je me faisais saigner les doigts, mais j'avais une passion. Puis j'avais assez hâte que ça fasse plus mal pour que je puisse recommencer à jouer pour avoir mal encore. C'était pas ça l'idée, là. Mais j'avais hâte de revenir. Donc, cette passion-là nous amène à faire des choses et à se surpasser. Faire le ménage de ce qui nous éloigne du rêve de Dieu. Pas facile. Parce que vous comprendrez bien que faire le ménage de ce qui nous éloigne du rêve de Dieu, quand on en parle à des chrétiens, ils vont peut-être comprendre. Quand on en parle à des gens qui sont dans le séculier, souvent ça n'a fait aucun bon sens. Aucun bon sens. Je me rappelle d'un exemple. Mon épouse avait un travail dans le milieu séculier qui était un excellent travail. Mais ce que ce travail-là faisait, puis était en train de développer ça, était rendu à un stade vraiment où le travail devenait rémunérant, très payant. Mais ce que ça faisait, c'est que ça prenait son temps. Donc, sa passion avait changé. Et quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme aussi en passant, vice-versa. On a des rêves différents, mais on est appelés tous les deux. Et puis, qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'elle décollait en avion tranquillement. Puis là, tranquillement, pas vite. Sa passion pour son rêve diminuait. Elle a laissé son travail, parce que c'est ce qui était la bonne chose à faire. Mais quand son patron l'a vu rentrer dans le bureau, « T'es-tu malade? » Puis quand il a dit, « Ben, tiens, je t'ai donné les clients, tiens, je t'ai donné, plateau d'argent, tort. » Il comprenait absolument plus rien. Mais elle est sortie de là avec une joie et une paix, sachant qu'elle était dans le plan de Dieu. On a fait une erreur, parce qu'on l'a accepté ensemble, le travail, on en a parlé. Tu sais? Puis, à ce moment-là, ça semblait la solution correcte. Mais si on aurait vraiment cherché le conseil de Dieu profondément, il m'aurait dit, garde, faisons pas ça. Mais ça tiroyait aussi, j'avoue que ça tiroyait. Puis là, à un moment donné, on était là-dedans. Mais il faut mettre ces choses-là de côté. Puis ça graffine des fois. Puis les gens qui sont pas dans votre rêve, des fois, vont pas comprendre. Vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais quand on est allé chercher au cœur de Dieu, il n'y a rien qui va nous empêcher de faire ce qu'il faut. Parce qu'on sait que Dieu va pouvoir, parce qu'il est en arrière de son rêve. Il est en arrière de son rêve, il est à côté en arrière. Il y a un sondage dans le milieu séculier, c'est un coach de vie, j'achève, il n'en reste pas long, qui a fait ce sondage-là. Il dit que 80% des gens, ils n'ont pas de rêve. 80% ils n'ont pas de rêve. Tout ce qu'ils font, c'est travail, métro, boulot, ils ont leur famille, la vie est belle, tout ça. Mais ils n'ont pas de rêve. Ils sont dans une routine, mais qui n'est pas nécessairement une bonne routine. 15% des gens ont un rêve, mais ils ne l'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit leur rêve. Ils s'en vont, mais ils ont un rêve, puis ils espèrent un jour y arriver. 15% des gens l'ont pas écrit. 4% ils ont un rêve qui est écrit, mais ils ne savent plus il est où. Ils l'ont écrit, mais ils ne savent plus où ils ont mis le papier. T'sais. 1% des gens ont écrit, ont un rêve, ils l'ont écrit, et ils le regardent à chaque jour. Et ce 1% de personnes-là, c'est tous des millionnaires. C'est biblique. Habacuc 2:2 nous dit, écris la vision. Écris le rêve. Dieu rachète le temps, c'est clair, mais il va falloir que nous autres, on fasse get up and boogie. Il va falloir qu'on se lève du divan puis qu'on se mette à marcher vers le rêve que Dieu a pour nous autres. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Fait que, c'est pour ça que tantôt, je disais, j'avais un rêve secret. Et puis là, je vais conclure tranquillement. J'ai un rêve secret, moi, pour l'Assemblée, c'est qu'on devienne tous des gens qui font get up and boogie. Qui se lèvent, qui ont été chercher le rêve de Dieu, puis qui foncent vers leur destinée, vers leur rêve de Dieu. Ça va vous gonfler, vous allez être au culturisme spirituel. Puis là, on va accomplir des grandes choses en Église.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.